podcast de Mac Québec, l'émission du 15 décembre 2009. Mon nom est Sylvain Grandmaison, je suis omniprésent, omnipotent sur le web, je suis partout, bref. Vous pouvez me trouver sur québecbalado.com, phono.ca, mon usager Twitter, CS Grandmaison, et je suis partout. Allez voir sur le web, je suis là.
Partout?
Oui.
C'est pas trop prétentieux, c'est pas peu.
Non, je prétends rien.
OK, moi je suis nulle part, je m'appelle Laurent Lassalle, vous pouvez aller sur le web et taper Laurent Lassalle, puis...
On te trouvera pas de toute façon, c'est ça?
Des fois, je suis là.
Des fois, t'es là.
Bon, oui. Ouais, mais ça dépend comment tu... Je suis pas super puissant, omnipotent et tout ce que tu veux.
Non, mais ta barbe est toujours là, par exemple.
Oui, fais attention. Foisonnante.
Oui. Mais encore une fois, c'est enregistré en direct du Café Lézard, 3119 rue Masson, et c'est en direct sur Ustream. Si vous le saviez pas, on enregistre à tous les deux mardis en direct sur Ustream, puis c'est le dernier podcast avant Noël, ce 15 décembre.
À vrai dire, c'est le dernier podcast de l'année, carrément.
Oui, de l'année, de la décennie.
Tu t'avances,
ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça. Sinon, on va revenir en janvier. Est-ce qu'on sait déjà quelle journée?
je ne sais pas, on l'a-tu écrit?
Je crois que c'est le 12 janvier, effectivement.
Ah, bon, c'est
de toute façon.
C'est le 12 janvier.
Oui, allons, embarquons tout de suite dans le vif du sujet avec sujets, justement. Premier sujet, application iPhone Dragon Dictation. Ça transforme vos paroles en texte. Donc, ce que vous pouvez faire, je l'ai téléchargé, l'ai essayé. Fonctionne assez bien. Ce que tu fais, c'est que tu enregistres. C'est sur le store américain. Il n'est pas disponible au Canada.
Est-ce que c'est gratuit?
Oui, c'est gratuit sur le store américain. Il faut faire un petit tour de passe-passe, il faut s'ouvrir un compte américain, tout ça. Mais ça fonctionne très bien. Je l'ai essayé, j'étais dans l'autobus, puis même avec le bruit, de le son de l'autobus, je réussissais quand même. L'application réussissait à reconnaître toutes mes paroles en anglais, même avec mon accent et tout.
OK, puis...
C'est ce que ça fait. Je ne sais pas la durée maximale de ça, mais ça transforme tout en texte. Puis après ça, c'est intégré. On peut l'envoyer par courriel, par exemple. Donc, à la place de taper un courriel sur l'iPhone, on a juste à dicter ce qu'on veut dire puis l'envoyer à la personne de notre choix. Puis ça fonctionne vraiment bien.
OK.
Mais bon, évidemment, c'est pour l'instant en anglais.
Oui, le truc pour ceux qui l'ignorent, le store américain, suffit d'aller dans le magasin américain puis d'essayer de télécharger une application gratuite. Puis là, on va vous inviter à ouvrir un compte puis on va avoir l'accès justement au mode de paiement nul. Donc, il faut spécifier qu'on veut aucun mode de paiement. Il y a juste de cette façon-là qu'on peut ouvrir un compte sur iTunes. Sinon, nécessairement, on a besoin d'une carte de crédit avec l'adresse américaine.
Effectivement. On va continuer avec nos sujets du jour. Oui. L'autre sujet, Fring, application qui sert à se servir, par exemple, de Skype ou autre. On peut faire des appels vidéo avec Fring, mais à sens unique seulement. Donc, c'est un peu comme Ustream, si on veut. C'est que... On peut diffuser à des gens.
Donc, Fring, c'est une application pour iPhone. C'est un équivalent de Skype, c'est un équivalent de Google Voice.
Oui, puis en fait, ça intègre Skype. Vous pouvez utiliser Skype à partir de Fring pour appeler. Sauf que pour appeler en vidéo, c'est pas à double sens. C'est un peu comme une diffusion en circuit fermé.
Est-ce que la vidéo est sur Skype? Est-ce que c'est cette technologie-là ou c'est d'autres choses complètement? Parce que est-ce que tu parles avec un autre iPhone ou avec un ordinateur?
C'est comme appeler avec Skype, là.
OK.
C'est vraiment... Ça fonctionne avec Skype. La seule chose, c'est que l'application a double sens, c'est-à-dire que chacun voit et parle avec la vidéo sur un téléphone. Ça marche avec d'autres plateformes, sauf avec l'iPhone, parce que l'iPhone, le problème, c'est qu'évidemment, la caméra est en arrière.
Oui, c'est ça. Ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, tu ne verrais pas ta vidéo, tu aurais besoin d'un miroir.
C'est donc, c'est un petit peu ridicule. Donc, on espère tous qu'il y aura soit une double caméra sur les futurs iPhones, soit que la caméra soit à l'avant, mais bon. On verra comment ça se passera.
Ouais.
Apple achète Lala. Je ne sais pas si vous connaissez Lala.
Mais Lala, j'ai connu Lala juste à cause qu'Apple l'a acheté. Je ne connaissais pas ça avant.
Mais en fait,
c'est pareil pour toi ou?
Non, je n'avais déjà entendu parler, mais je n'étais jamais allé sur le site, même si je savais c'était quoi. Mais en fait, c'est un service de musique similaire un peu à iTunes. Ils ont un magasin en ligne, mais... La différence, c'est que ça permet d'écouter sa musique à partir de n'importe quel ordinateur. Donc, on achète des chansons et on les écoute en streaming d'un peu partout ou bien on les télécharge. Donc, il offre les deux.
Je trouve ça intéressant le lien qu'on peut faire avec Lala, qui est la nouvelle acquisition d'Apple, puis l'iTunes Store qui est devenu un petit peu plus web-friendly parce qu'il y a une version web maintenant. Il n'y a toujours pas de preview sur le web, là, mais c'est intéressant de faire le lien on peut s'imaginer que
ça va s'emmener,
va peut-être évoluer.
Puis qu'on va avoir accès à nos chansons un peu partout. Quand on achète les chansons seulement en streaming, ça coûte 10 sous par chanson.
OK.
Puis on peut l'écouter n'importe où, n'importe
Sauf
quand.
Sauf que ça stream à chaque fois. Tu n'es jamais propriétaire dans le sens physiquement, tu ne l'as pas dans tes poches.
Non. Ouais. Sauf que si les downloads, par exemple, coûtent entre 69 et 79 sous,
okay.
ce qui est moins cher justement que sur le iTunes Store.
Oui, mais ça va être facile de justifier parce qu'iTunes est à 256 kbps. J'imagine que les downloads qu'on nous propose doivent être à 128
ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il faut
toujours
voir.
Toujours une passe.
Oui. Et c'est une émission spéciale. On anime à deux cette semaine, sauf
Mais pourquoi on est deux?
Pourquoi on est deux? Parce que notre ami Laurent Maisonneuve est en France.
The Laurent est pas
The
là.
The Laurent, oui. Grâce à la magie de l'Internet,
la
nous
technologie.
Allons l'avoir avec nous dans la prochaine seconde et on va faire unmute. Est-ce que tu es là, notre ami Laurent?
Salut l'Internet!
Alors, on t'a réservé un segment tout juste pour toi. On va introduire les sujets, et puis on va discuter avec toi de ces sujets-là.
Bon, ben, tout d'abord, il s'enfile. C'est important d'en parler, il s'enfile.
Non, c'est pas important d'en parler.
J'ai le plaisir de vous apprendre que nous venons de passer les 5000 téléchargements de l'application Il s'enfile. C'est un vrai succès.
Ben, bravo.
Voilà. Allez, c'était le 10 secondes Il s'enfile.
Du président.
Président d'Il s'enfile. Ben non, sinon, moi, ce que je trouvais intéressant, ben, comme vous le savez ou ceux qui ne le savent pas, je suis en France pour un séjour de quelques jours ou de quelques semaines.
Quelques semaines,
moi, ce
oui.
que je trouvais intéressant, c'est de comparer un peu le Mac au Québec et le Mac en France.
Oui.
Et il y a trois points notamment, c'est la distribution des produits Apple, le iPhone et le App Store, comment c'est vécu des deux côtés du continent.
Et puis la distribution, comment ça se passe en France?
Oui, ben, on en avait parlé, je crois, il y a deux, trois podcasts avec l'arrivée enfin de Apple Store en France.
Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier Apple Store, et je crois, il est arrivé le 25 octobre, c'était à Paris, au Carrousel du Louvre, un superbe Apple Store d'ailleurs de 700 mètres carrés. Comme Apple sait en faire un peu du même style de celui de la 5e Avenue à New York.
À New York, oui.
Sinon, il y en a un deuxième qui est ouvert à Montpellier, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux Apple Store en France, alors qu'on est quand même sur une population de plus de 60 millions d'habitants.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la distribution des produits Mac se fait par les petits revendeurs, un peu comme chez nous.
Est-ce qu'il y en a autant qu'ici ou...
Oui, il y a autant de petits revendeurs. Ce qu'il y a, c'est que ces trois dernières années depuis que je suis parti, il y a des plus grands distributeurs, Darty, Fnac, Boulanger, Camif. Ça ne vous dira rien, mais les Français connaîtront.
Oui, oui.
Se sont mis à vendre des produits Apple.
Comparer avec nous, Future Shop vend du Apple à Star.
Ils ont un petit coin Apple. Okay. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont pas trop apprécié la venue du Apple Store. Et le leader français, justement, de la distribution, on va dire, multimédia, qui s'appelle Fnac, avait fait du lobbying, justement, pour que les Apple Store n'arrivent pas en France, ce qui a expliqué un peu le retard. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, tu vois, on se plaint toujours au Québec, on dit « Ah, c'est plus cher » ou on n'a pas les mêmes produits en même temps que les États-Unis, tout ça. Ben finalement, quand on regarde du côté de l'Atlantique, ben c'est pire.
Mais quoi que la France a eu l'iPhone avant quand même.
Voilà. Ben ça,
sauf
c'est
que les prix des plans data sont pas pareils.
Ben, sont mieux. Et en plus, je pense qu'en
avant
France...
le Canada, j'allais dire Québec, oui, le Québec / Canada.
Oui.
Et surtout, ben, au début, il y avait... Comme chez nous, c'est uniquement Rogers au début. Ici, c'était uniquement Orange. Mais très rapidement, avec la pression de l'Union européenne, les autres fournisseurs de téléphonie cellulaire ont pu vendre le iPhone. Et surtout à des prix très intéressants. Parce que pour vous donner une idée, le 3G est à 69 euros.
Si on veut faire
la parité, c'est
un peu plus que 100 dollars. Ouais.
1,5.
Ouais.
Ça fait 100 dollars. Et le 3GS, il est à partir de 119 euros.
OK.
Ce qui fait 170 dollars.
Ouais, ce qui est quand même
pas mal moins cher que chez nous.
Ouais, sauf que
les forfaits, je pense, c'est limité l'accès à Internet. Du moins, c'est ce qu'ils disent.
Les forfaits vont de 30 à 45 euros. Ce qui est quand même pas mal moins cher que chez nous. C'est moitié moins cher.
Un forfait.
Et au niveau des données, c'est, oui, c'est, ça dépend des opérateurs. Ça va des forfaits de 500 mégas à illimité pour certains.
Ouais, ben okay. C'est ça. Moi, j'ai ma collègue qui est présentement en France. Puis elle a regardé justement pour un engagement sans compte. Ben, dans le fond, un forfait sans engagement. Puis je pense que ça revenait à quelque chose comme 69 euros par mois pour du illimité, qui est quasiment l'équivalent de ce qu'on paye nous avec un 3 ans d'engagement.
Mais, ouais. Là,
un petit peu plus cher quand même, mais bon.
J'ai mis le lien dans le Google Doc qu'on a ensemble, là, et puis ça sera dans l'article qui publiera le podcast de Mon Québec. J'ai trouvé un très bon site qui s'appelle l'iPhone pour les radins, et qui a fait un comparatif des forfaits iPhone. Et on voit Bouygues Télécom, qui est, le concurrent pas cher sur la téléphonie en France, lui propose du illimité pour moins cher que ça. Je pense que ta copine, elle a été vers le leader qui est Orange, mais on peut avoir moins cher.
Ok.
Par contre, le tethering est interdit en France alors qu'il est autorisé au Canada.
Oui.
Pour l'utiliser très régulièrement, puis je sais que c'est votre cas également.
Ah oui?
C'est un grand plus.
Oui. Tes autres sujets du jour, avais Snow.
Juste pour conclure, oui. Pour vous laisser tranquille entre Québécois. non, je trouvais intéressant de comparer l'App Store, c'est-à-dire la boutique des applications iPhone, iPod Touch, qui est en France et au Canada, sur le top 10 des gratuites et des payantes. Et on voit vraiment que ça colle à la culture ou à l'actualité. La numéro 1 en application payante en France, c'est Ski Montagne, qui donne la météo du ski en montagne.
Dans
parce
les
que
Alpes.
Tous les Français ont parti en vacances à la montagne pour skier. Donc, c'est ce qui les intéresse le plus. Alors qu'au Québec, c'est Où est Waldo en numéro 1. Donc, on voit que ce ne sont pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Après, en application gratuite, il y en a une toute nouvelle qui est sortie aujourd'hui, là, qui arrive en numéro 2. C'est l'application Canal+. Alors, est-ce que vous connaissez Canal+?
Oui, oui.
Ouais, c'est un poste de TV.
Voilà, c'est un poste de télé. C'est la première chaîne de télé payante en France, qui a plusieurs chaînes.
C'est le HBO français.
Ouais.
Exactement. Bon. Et ils viennent de lancer leur application iPhone, qui est gratuite. Et là, la particularité, c'est que leur chaîne de télé, une partie de la journée, ils ont des émissions en clair, c'est-à-dire gratuites. Et une autre partie de la journée, les émissions sont payantes, par exemple pour les films ou les matchs de soccer. Et donc, cette application offre gratuitement les émissions gratuites. Et pour les abonnés, ils peuvent avoir accès en direct à ce qui est diffusé à la télé. Mais ce qu'il y a, c'est Canal+, ce n'est pas seulement une chaîne. Ils ont une dizaine de chaînes thématiques. Donc c'est une super application et j'imagine que dans quelques années on aura peut-être un Vidéotron qui fera la même chose chez nous.
On espère.
Voilà.
Sinon, la télévision.
Une autre petite application que je trouvais très intéressante qui vient de sortir et qui transforme son iPhone 3G ou 2G qui permet de faire de la vidéo, excusez-moi,
oui.
Avec son iPhone 2G ou 3G. Mm-hmm. Et c'est une application qui est officielle sur l'Apple Store.
Ah oui?
Oui. Qui s'appelle...
Ouais, c'est pas des notes, ça. Tu viens d'improviser ça comme ça, on the fly.
Non. C'est une application payante qui s'appelle iVideo Camera.
Mm-hmm.
Et je l'ai vu sur l'Apple Store français. Alors, je ne sais pas s'il est sur le canadien. Je n'ai pas vu ça. Mais par contre, c'est écrit clairement qu'on peut faire de la vidéo avec un iPhone 2G ou 3G, c'est-à-dire non jailbreaké.
OK, de façon officielle. OK. Ça veut-tu dire qu'on peut streamer? Ça veut-tu dire...
Non, ça veut dire qu'on peut faire des vidéos.
On peut enregistrer, OK.
On peut enregistrer des vidéos. Non, pas streamer. C'est... Parce qu'avec un iPhone 2G, 3G, tu peux uniquement faire des photos.
Oui, mais je veux dire, tu peux streamer avec d'autres applications jailbreakées.
Oui, mais là, il est en train de parler d'une application officielle. Il est en train de parler à ceux qui n'ont pas jailbreaké leur iPhone parce qu'ils ont peur des méchants.
Ça aurait pu.
Je suis étonné. Laurent Lassalle a compris du premier coup.
Eh oui.
Non, juste pour finir, dans les applications gratuites en France, en numéro 7, on a l'application « Quelle bête de sexe es-tu ?»
On voit les préoccupations de chacun.
Voilà, exactement.
Surtout les,
voilà,
les préoccupations
le petit
de notre
combat, Mac France, Mac Québec.
Ben excellent. On
terminait l'émission, les gars.
On te souhaite un joyeux Noël français.
Oui, oui, et passe un très beau Noël avec ta petite famille et ta toute petite.
Oh, c'est cute.
Ouais. Donc, ben à bientôt.
Allez, bonne fête de fin d'année, les gars. Salut.
Ben merci. Bye. Et bon. Voilà, c'était le petit segment français de Mac Québec d'aujourd'hui. On va le mettre dans les notes de l'émission iVideo Caméra, qui ouais. coûte 99 sous, je viens de le trouver. On peut enregistrer sur n'importe quel iPhone et on peut partager les vidéos, etc., etc. Donc, je vais essayer ça, puis on en reparlera peut-être ouais. un petit peu plus tard.
Mm-hmm. Dac.
Continuons avec nos sujets du jour. iStat Menu, tu veux nous en parler,
oui,
mon cher ami?
J'aurais tellement aimé ça, avoir mon ordi devant moi pour en parler. Mais oui, non, mais c'est parce que tu ne l'as pas installé, ça ne sert à rien.
Ben non, ben non.
Là-dessus. J'ai mis super notes. En fait, c'est un gestionnaire de ressources système. La semaine dernière, non, l'autre semaine d'avant, je pense, je me suis plaint que mon ordinateur est excessivement lent. Puis on connaît tous le truc, hein, quand l'ordinateur est lent, redémarrer, ça marche. Puis, c'est ouais. vrai que ça marche, puis c'est logique pourquoi ça marche. En fait, c'est que des logiciels comme Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ou InDesign vont faire gonfler la mémoire virtuelle, donc le swap disk, des fois jusqu'à 2 gigs, puis ils te remplissent ça. Puis, si tu as le malheur de force quitter Photoshop ou de quitter, qui quitte inopinément, ben, la mémoire reste remplie. Puis souvent, il y a même de la mémoire vive qui est réservée, allouée pour Photoshop, le logiciel qui ne roule plus. Donc, ça fait en sorte que tous les autres logiciels qui roulent ont besoin de ces ressources-là, puis ils n'ont pas accès, puis ça ralentit tout simplement. Donc, le logiciel que je me suis installé, c'est iStat Menu. Donc, ça va dans la barre de menu en haut de notre Mac, puis on peut voir justement les ressources sont utilisées, la consommation de la bande passante, par exemple, la mémoire vive, l'espace disque, les processeurs, etc. Il y a différentes façons de les faire afficher. On peut les faire afficher simplement avec les chiffres, avec différents diagrammes. Donc, il y a possibilité de voir en un coup d'œil si notre ordinateur se comporte normalement ou s'il est lent, on peut comprendre justement pourquoi il est lent. Donc, on peut voir, OK, c'est Photoshop, puis il y a tout jamais la mémoire, puis OK, je vais redémarrer. Puis au moins tu sais pourquoi.
C'est pas
juste un truc de magie. Fait que ça, en tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant. Ça me rend.
Ben, c'est quand même pas un truc de magie de redémarrer, mais bon.
Non, je le sais, mais des fois, tu sais, c'est comme. C'est toujours le truc sur le Mac. Là. Si ça marche ouais. pas, redémarre, puis ça marche. Mais moi, ça me frustre. J'aime ça comprendre pourquoi
ouais.
ça marche
c'est
pas.
C'est peut-être pas la. Ben, ouais, c'est ça. Tu vois, à la source du problème.
Mm-hmm.
Autre petit logiciel, Little Snitch, qui bloque les requêtes non désirées de serveurs externes. Donc.
Est-ce que ça fait longtemps que tu l'utilises?
Oui, ça fait longtemps que je l'utilise. En fait, j'ai commencé à l'utiliser parce que, bon, on va parler d'illégalité. Là. Tu utilises... oui, c'est son regard autour.
Pourquoi tu parles?
Tu utilises un logiciel qui a été... que tu n'as pas acheté. Ça peut arriver. Mais tu n'as pas envie, justement, que l'information soit envoyée à Adobe, par exemple, ou justement que Adobe communique avec ton ordinateur puis que, finalement, ça soit barré.
Ça, c'est pas juste Adobe, c'est un paquet de logiciels. Des fois,
ah oui.
on veut essayer un logiciel, puis il n'y a pas de version démo disponible, ou la version démo est tellement limitée que.
Ouais, fait que tu la télécharges.
De trouver un autre moyen.
Tu la télécharges illégalement, puis là, tu l'installes, mais sauf que ça communique avec le serveur. Ben, Little Snitch te permet d'empêcher ces branchements-là, puis de monitorer tout les connexions qui sont faites avec ton ordinateur par ces serveurs externes-là, que ce soit Apple, Adobe, nomme-les.
Donc, il y a possibilité de dire telle part, parce qu'au début, quand on installe les Little Snitch, évidemment, on se fait popper un paquet d'alertes. Ça me fait penser un petit peu à l'annonce où Apple ridiculisait Windows ouais. avec leur nouveau Windows Vista, où ce que tu avais le gardien de sécurité qui dit « Ah, telle part veut communiquer avec toi, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu acceptes? » Donc, ça reproduit un peu le même comportement, sauf qu'on peut y dire « Oui, j'accepte pour cette fois-ci, j'accepte pour toujours. » Donc,
ouais.
La connexion du port FTP avec le site web macquebec.com, je l'accepte pour toujours, donc il ne posera plus jamais la question. Fait qu'il
ouais.
y a possibilité de produire ces règles, les règles-là, le jour
ouais,
que toi, t'en
as coupé. Oui, il y en a quelques-unes. Mm-hmm. Et de les modifier à tout moment. Donc, c'est assez pratique. Toi, est-ce que tu t'en sers?
Oui. Puis, ils sont rendus à la version 2.0. C'est vraiment stable comme logiciel.
Ah oui, puis il s'ouvre au démarrage, donc tu n'as pas besoin d'y penser.
Mm-hmm.
tu...
Il n'est pas cher, hein? Je pense non, que c'est une vingtaine de piastres, trentaine de piastres.
30 piastres. Ouais. C'est vraiment pas cher pour ce que ça peut faire là, aussi. Là. Ouais. Mais en même temps, ça te permet de voir qu'est-ce qui fonctionne, quelles requêtes qui sont faites. Des fois, on peut être surpris comment il y a plusieurs requêtes dans une journée qui sont faites sur ton ordinateur.
Des fois, des logiciels qui ne devraient pas communiquer avec le web veulent communiquer avec le web pour absolument rien. Ce n'est même pas pour une mise à jour. Là.
Non, pour absolument aucune raison. Hein.
Ben, c'est ça.
Et il faut dire que les logiciels d'Apple communiquent tout le temps.
Ouais.
C'est hallucinant.
Donc, les paranoïaques vont aimer l'application.
Oui, tout à fait. Adobe InDesign a un dossier Forms.
Je suis content. Regarde, ça va prendre juste une minute de vous parler de ça. Puis c'est sûr que je m'adresse à plus aux infographistes, aux designers graphiques qui utilisent ce logiciel-là. Mais avec l'arrivée de Snow Leopard, Apple a introduit une nouvelle version de Helvetica New avec ses polices. Puis malheureusement, quand toi, tu as déjà une version d'Helvetica New avec plusieurs, donc une version black condensée, tout ce que tu voudras, il y a des problèmes de compatibilité entre les polices. Donc, pour régler ça, dans le cadre d'Adobe InDesign, un logiciel de mise en page, ben on peut simplement glisser nos polices dans le dossier Fonts et celles-ci vont avoir la priorité sur les polices système parce que le truc d'avant, c'était d'effacer la version système de Helvetica New, c'était réglé. Là, maintenant, elle réapparaît parce que justement, elle est utilisée avec un paquet de logiciels Apple. Puis c'est vrai que si on met la version d'Adobe plutôt que la version d'Apple, il y a des décalages au niveau des crénages puis des auteurs de ligne, donc ça produit quelque chose d'un petit peu dégueu au niveau visuel. Fait que ça règle le problème. Quand j'ai vu ça, j'ai tellement gossé là, pour essayer de régler le problème. Quand j'ai vu ça, faut que j'en parle à quelqu'un.
Mise à jour, Apple retire certaines fonctionnalités de certains logiciels. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez mis à jour, si vous avez iLive de 2007 à 2008, pas dans iPhoto, mais par exemple dans iMovie. Quand l'interface a changé esthétiquement, tous les plugins qui servaient à iMovie ne fonctionnent plus.
OK, oui.
Il y a ce genre de trucs-là, ou des trucs de passe-passe qu'on pouvait faire auparavant dans iMovie qu'on ne peut plus faire avec les nouvelles versions. Et tranquillement, ils les remettent. Apple a un peu tendance à faire ça. C'est justement quand ils font des mises à jour. Puis, dans le cas de iLive, ça coïncidait justement avec le fait qu'il y avait une version light de Final Cut.
Mm-hmm.
Donc, ils se sont dit, pour ne pas se couper des ventes, on enlève des fonctionnalités dans iMovie qui sont dans Final Cut Express.
T'sais. Là, on rappelle qu'en ce moment, on est dans notre espèce de bloc segment expérience utilisateur. Donc, c'est pas une nouvelle. Ça fait longtemps, dans le fond, qu'on sait que les plugins ne marchent plus dans iMovie. Mais des fois, c'est ça. Moi, je savais, toi, tu le savais, mais peut-être que certaines personnes ne le savent pas.
Oui, puis c'est sûr qu'il y a certaines fonctions qui ont été remises dans iLife 2009. Donc, ça aide justement pour iMovie. L'autre truc, le firmware 3.0 de l'iPhone rend les câbles AV standard inutilisables.
Ça, j'avais même pas remarqué.
On peut brancher un câble AV vidéo sur le jack, le headphone, sur le port écouteur du iPhone. On peut brancher des câbles AV. Sauf que là, Apple, avec le firmware 3.0, ils ont désactivé ça. Donc, on ne peut plus mettre un câble AV standard.
Il préfère qu'on utilise le port en dessous, je pense.
Oui, puis même avec le port en dessous, il y avait des câbles qui fonctionnaient simplement en vidéo puis audio gauche-droite.
OK.
Ça aussi, c'est désactivé. Il faut acheter le câble Apple qui est composite, qui sort en rouge-vert-bleu, audio gauche-droite, qui coûte, évidemment, il est plus cher.
Apple, c'est toujours... Ils ont fait la même chose. Toi, tu me parles du câble AV là, qui rentre dans le jack. Tous les câbles AV qui rentrent dans le jack 1/4, jack 1/8 normal, peuvent fonctionner. Le truc, c'était de prendre, je pense que c'était le fil blanc pour l'audio de gauche était le vidéo. Puis le fil de vidéo était l'audio. Il fallait juste penser à changer ça.
Okay.
C'était la seule différence qui distinguait le câble d'Apple officiel qui coûtait genre 50$ avec un câble qu'on peut acheter chez Radio Scrap.
Ouais. Parce que sinon, on peut le faire, on peut le remettre. Il y a des gens qui l'expliquent sur le web. Là, on peut, quand on jailbreak, on va remplacer un fichier on prend un fichier qui était de l'ancien firmware.
Okay.
On le met, on le remplace dans le fichier 3.0.
Ouais.
Et puis, ça va refonctionner comme normalement. Okay. Ils ont juste changé un petit truc, un petit paramètre. Puis c'est très pratique pour ceux, justement, qui font de la formation sur l'iPhone, qui veulent montrer à l'écran qu'est-ce qui se passe sur leur iPhone. C'est très pratique d'utiliser des câbles comme ça.
Mm-hmm.
Donc, voilà. installer macOS 10 en Target Mode.
Ouais,
tu veux nous en parler?
J'ai parlé de ça avec un de mes amis qui ne savait pas. Pourtant, c'est quelque chose que ça fait longtemps que ça existe. Il y a possibilité d'installer... souvent, on a un système d'exploitation qui vient avec notre ordinateur. Puis on a un autre ordinateur, un vieux Mac. Puis on aimerait ça le mettre à jour, mettre Snow Leopard, par exemple. Mais malheureusement, quand on prend le DVD de Snow Leopard puis qu'on le rentre dans le... C'est pas le DVD de Snow Leopard, pardon. Le DVD qui vient avec le nouvel appareil, quand on le rentre dans l'ancien appareil, souvent, il dit non, ça s'installe pas sur un Mac mini, ça s'installe seulement sur un iMac 27 pouces. Donc, le truc, c'est de démarrer l'ordinateur en version Target Mode. Donc, on tient le bouton T lors du démarrage, puis l'ordinateur va imiter un disque dur FireWire. Donc, une fois que l'ordinateur est dans ce mode-là, l'ordinateur d'origine, l'ordinateur plus récent, si vous voulez, quand on part avec le disque dans lequel il venait, on peut installer le système d'exploitation sur un autre disque dur, sur le disque dur FireWire, qui est dans le fond l'autre ordinateur. Okay. Fait que c'est un tour de passe-passe, ça fonctionne très bien. Après ça, quand on démarre l'autre ordinateur, il se rend compte simplement que c'est plus un iMac, c'est un Mac mini, mais ils sont fous. Il n'y a pas outre sécurité que ça.
Okay.
Donc, des fois, ça peut être intéressant quand on vient justement un ordinateur plante où on sait que la nouvelle version Snow Leopard pourrait peut-être régler le problème. C'est Noël, les magasins sont fermés, on ne peut pas se procurer, puis on ne veut pas downloader nécessairement Snow Leopard. On le sait, on l'a avec notre nouvelle machine. Ben on peut simplement faire ce tour de passe-passe.
OK. Ben c'est bon à savoir. Yes. C'est très bon à savoir. On va passer aux rumeurs très rapidement. Le nouveau Google Phone qui serait disponible en janvier. Il y a Laurent Maisonnat qui m'y a ajouté dans les notes de l'émission. Ça, je ne l'avais pas vu. 5 janvier chez T-Mobile plus le Unlock. Donc, ça s'en vient très, très, très bientôt. Le nouveau Google Phone plus officiel, comme on l'appelle.
Mm-hmm.
iPhone 64 GB.
Oui, et iPod Touch de 128 GB. Toshiba, le fournisseur justement de mémoire flash pour les iPod et iPhone, a dévoilé cette semaine un module de mémoire flash à 64 GB qui devrait être mis en production en 2010. Donc, en ce moment, le iPod Touch à 64 GB utilise deux modules 32 GB, mm-hmm, pour imiter du 64. C'est impossible de mettre plus qu'un module mémoire dans l'iPhone. Fait que c'est pour ça qu'il est limité à 32. Mais avec l'avenue d'un module mémoire de 64, ben là, c'est facile de faire les mathématiques et de supposer qu'on va avoir un iPod Touch à 128 GB, ouais, de mémoire flash. C'est quand même impressionnant. Puis ouais, 64 GB pour l'iPhone.
Oui, ça commence à être intéressant.
Là, commence,
64
ouais,
GB pour un iPhone, là, on
ça,
commence
là,
à être
là, on
content.
On commence à parler.
Ouais.
Avec mon petit 8 GB, moi, je fais pitié.
Ouais, moi, j'ai un 16, puis même là, je me sens les 3 des fois.
Ouais.
Ouais. C'est sûr qu'on gère différemment. La production de Apple Tablet commencerait janvier-février pour une sortie probablement en mars. Et la rumeur la plus persistante en ce moment, c'est que l'écran serait évidemment un écran multitouch de 10,1 pouces. Ça serait vraiment la version de lancement qui serait, okay, à 10,1 pouces. Donc, il y a aussi toutes sortes de rumeurs concernant le fait que il y aurait des ententes entre des distributeurs de livres et Apple qui seraient en cours, en négociation en ce moment. Donc, les rumeurs, tout converge vers ça en ce moment. Là.
OK.
Donc, voilà. Détails concernant le futur processeur du MacBook Pro.
Oui, ça, c'est apparu, je pense, c'est aujourd'hui ou hier, le fameux processeur. On supposait que le processeur i9 allait être utilisé dans les prochains MacBook, les Mac Pro. Mais malheureusement, on s'en fout, là, dans le fond, ça va être quand même un Intel Core i7-980X, X pour extrême. Le nom de code, c'est Gulfstream, et c'est un processeur de 32 nanomètres, 6 cœurs avec 12 fils, cadencé à 3,33 GHz, et devrait voir le jour en mars 2010. Le Mac Pro est dû pour justement un rafraîchissement. Donc, c'est logique d'imaginer que ce processeur sera disponible justement très bientôt.
Oh, et ça va décoiffer une fois de plus.
Ben, pour ceux qui utilisent les Mac Pro, je sais que leur Amazon Nav, pour faire la compression vidéo, je veux dire, ça fait quand même une méchante différence avec le MacBook Pro qu'on a.
Oui, c'est justement là que ça fait la différence dans les applications qui sont très, très, très demandantes.
Oui, et optimisées pour les processeurs.
Oui, parce que maintenant, là, même dans Photoshop, ça prend un très, très gros fichier pour venir à bout d'un MacBook Pro quand même.
Oui. Ben, mais le fichier va d'abord venir à bout de la mémoire vive avant de venir à bout du processeur.
Oui, tout à fait. En vrac, des nouvelles en vrac, ben l'application Kindle pour iPhone qui est enfin disponible au Canada. Donc, je ne sais pas, on en avait parlé aux émissions précédentes. Je ne l'ai pas essayé encore. Ce qu'on m'a dit, par contre, c'est que... Oui, c'est ça. C'est plus ou moins intéressant. Ce qu'on peut faire, par exemple, pour la tester, si ça vous intéresse, il paraît qu'on peut télécharger des intros ou des extraits des livres. Donc, si vous voulez l'essayer, voir le confort de lecture sur l'application. Pas besoin d'acheter un livre.
On peut télécharger un extrait gratuitement si on aime l'expérience.
C'est
au moins ça.
Sinon, il y a une application qu'on avait parlé récemment que vous pouvez convertir n'importe quel fichier texte en version Kindle puis la mettre là-dessus. Donc, allez voir ça. Streaming vidéo en temps réel avec Ustream pour iPhone. C'est quand même très intéressant. Oui,
l'application, elle a 2 mois, je pense. Ça fait peut-être un peu plus. On peut écouter puis on peut streamer à partir de l'iPhone, right?
Oui, on peut streamer. Sur Ustream, on ne peut pas écouter tout le contenu. Il y a certains contenus, si ma mémoire est bonne, il y a certains contenus qui sont accessibles, mais pas tout.
C'est le best of. En fait, c'est sûr que ça avantage les producteurs vidéo qui produisent du contenu régulièrement tous les jours. Ouais. Donc, Mac Québec, avant qu'on arrive là, étant donné qu'on est une fois ou deux semaines, ça peut prendre un temps ou peut-être qu'ils vont changer l'application et permettre justement de voir tout le contenu. Parce que c'est le principal défaut que cette application a pour l'instant.
Oui, puis ça, en tout cas, j'ai hâte justement que à peu près tous les contenus vidéo soient disponibles sur l'iPhone et justement le streaming, qu'on puisse écouter des affaires qui sont streamées live. Freebit, juste pour vous dire, fait une démonstration de ses applications avec un démo de serveur multi-iPhone. En fait, ils ont fabriqué un serveur avec, je crois, ces 5 iPhones qu'ils ont mis dedans pour vous montrer qu'on peut utiliser son iPhone comme serveur web, unité de storage ou un serveur de partage de fichiers.
OK.
Donc, ça peut être utile. Donc, vous pouvez vous servir de votre iPhone comme serveur ou comme unité de stockage. Sauf que pour montrer la puissance de leur truc, ils se sont fait une démo avec un serveur iPhone. Là,
OK.
Ça, c'est un peu ridicule, c'est un peu extrême. C'est pas en vente. Sauf que l'application, elle, est assez intéressante.
Ouais.
Justement, pour copier des fichiers, s'en servir comme serveur web ou avoir accès à des fichiers et les partager avec d'autres gens.
Oui, ça me fait penser. Il y a aussi possibilité, certains routeurs, il y a moyen de le configurer pour faire en sorte qu'ils agissent comme un serveur web également.
Oui.
Tu sais, il y a toujours des trucs. On peut hacker n'importe quoi, puis ça, c'en est la preuve.
Oui. Safari demeure le furteur le plus rapide sur Mac. C'est ce qu'on a lu, c'est sorti hier, donc... Le furteur le plus rapide sur Mac, ça serait toujours Safari, même plus rapide que Chrome, qu'on dit extrêmement rapide.
T'as vu la différence entre les deux, là, minime là, quand même, il est à peine plus rapide. Les benchmarks ont été faits avec la nouvelle version de Chrome Beta qui est sortie récemment. Mais c'est sûr que bon, une fois que Chrome 1.0 va être lancé, peut-être qu'ils vont trouver le moyen d'être plus rapide de Safari. Le Safari va réussir à être encore plus rapide, puis ça va être le chef.
Ouais, c'est une course sans fin. Là.
Mais le problème avec Firefox, pourquoi il est si lent, c'est toujours... on peut pas s'empêcher d'installer des applications sur Firefox. Puis d'ailleurs, Chrome va arriver avec des applications, elle aussi. Donc, je sais pas si ça va... Ça va peut-être être un défi de plus pour
garder la rapidité. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Mais c'est à peu près tous nos sujets qu'on avait à l'émission cette semaine. Mais ça conclut aussi l'année. Je sais pas, toi, Laurent, s'il y a un highlight de l'année pour toi pour ce qui est de Apple. Ou bien de la décennie. Il faut dire qu'on termine aussi une décennie. Là. C'est un peu anecdotique. Bon,
la décennie, là, ça serait stupide de ne pas dire iPhone. C'est comme l'iPhone a changé Apple.
Même l'iPod. Au cours de cette décennie-ci, Apple... renaître
de ses cendres. Exact, notre français. On a pas de français national avec nous.
Ouais. Mais faut dire que le premier iMac est sorti en fin 98, à l'automne 98.
Puis après ça,
toute la décennie 2000 a été incroyable pour Apple. Ça a été une croissance fulgurante.
Je pense j'ai envie de dire iPod.
Oui.
iPod, parce que c'est le iPod qui a fait en sorte
c'est le
que
point de départ, hein.
Apple s'est dit on peut faire autre chose. Dans le fond, le iPod, c'était d'essayer quelque chose de nouveau après l'échec, je fais des guillemets dans les airs, là, l'échec du Newton.
Ouais.
Donc, puis ça a été une réussite. Ça a permis justement d'entrevoir le iPhone, peut-être même un Apple tablet. Bref, Apple commence à se diversifier.
Ouais.
Et c'est tant mieux.
Oui, puis en plus, a des modèles de revenus assez incroyables.
iTunes.
Oui, iTunes.
On peut pas passer à côté d'iTunes. Là,
C'est ça qui est drôle, c'est qu'au début, on avait iTunes qui était juste un gestionnaire de musique où est-ce qu'il fallait manuellement copier soi-même ses CD en MP3, puis ça nous permettait juste d'écouter là. Après ça, ils ont introduit des iPods pour pouvoir transférer notre musique puis l'écouter de façon mobile. Et là, ça a déboulé depuis ce temps-là.
Finalement, c'est devenu un magasin en ligne pour télécharger des...
Oui, puis là, il y a des applications, puis il y a des livres, puis n'importe quoi. Là, ouais. C'est assez hallucinant.
Mm-hmm.
Bref, c'était une super décennie pour Apple. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de Mac Québec. On vous remercie d'avoir écouté. On vous remercie d'avoir passé l'année avec nous. Ça fait déjà quelques mois, quoi, à peu près...
Depuis cet été.
Au printemps.
Ah, ouais?
Je pense que c'est depuis le mois d'avril, à peu près.
OK.
Donc, ça a été le fun de faire ça avec vous et j'espère que vous serez là l'année prochaine.
Oui, prochain rendez-vous, nous. On peut rappeler la date. On parlait du 12?
Du 12 janvier à 1h pile heure du Québec. Donc, oui, parce que Laurent Maisonneuve sera probablement encore une fois en France pour cette émission-là. Donc, ici Sylvain Grandmaison et
Laurent Lassalle.
On vous dit à très bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.